autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ? Comment la science infuse ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Jérémy Bessé à la réalisation sur le fil aujourd'hui pour notre table ronde virtuelle avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique qui sont tous là en direct et à fond, même si c'est par téléphone amélioré. Merci d'ailleurs à la réalisation et à la technique Apolline Leduc. Avec sous le coude, et juste pour vous, chers amis auditeurs et auditrices, de nombreux magazines à vous faire gagner. Bon, il ne faudra pas être pressé le temps que ces magazines nous arrivent et puissent vous être renvoyés, mais avec un peu de patience. Et si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook, vous aurez peut-être la chance de recevoir sur votre continent Science et Avenir, La Recherche, Science et Vie, Ciel et Espace ou Cerveau et Psycho, c'est-à-dire, je n'hésite pas, le meilleur de la presse scientifique, représenté par mes camarades Cécile Lestienne, Philippe Hénarejos, Mathieu Novak, Philippe Pajot et Thomas Cavaillé-Foll, avec qui nous parlerons des origines de l'humanité à la pointe sud de l'Afrique, où nous ferons aussi des observations astronomiques avant de rayonner autour du Soleil et de découvrir pourquoi l'apprentissage en collectif, c'est toujours mieux ensemble pour apprendre et s'entendre. Et même on n'arrête pas le progrès pour lire et décoder la parole de l'autre jusque dans son cerveau. Autour de la question « Comment la science infuse et se diffuse ?» Bienvenue. Comment la science a-t-elle infusé ? S'est-elle bien ou mal diffusée autour du Covid-19 qui mobilise tous les laboratoires de recherche de par le monde ? Sauf qu'on vient de l'entendre encore dans les informations, sauf que le temps de la recherche, celui de la pandémie et surtout celui des médias n'est pas le même. D'où de nombreux malentendus quand ce ne sont pas des fake news. Comment démêler le vrai du faux ? On s'interroge avec vous, Cécile Lestienne de Cerveau et Psycho. Bonjour, vous êtes bien en ligne avec nous ?
Absolument. Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Et on s'interroge.
Ravie de vous retrouver, même virtuellement.
Moi aussi, même virtuellement, ça fait du bien. Bonjour également à Mathieu Novak de Science et Avenir, qui est aussi en ligne avec nous, si tout va bien.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Bonjour Mathieu, ravi de vous avoir aussi. Alors comment, je ne sais pas à qui s'adresse cette question, mais à l'un de vous deux, comment peut-on jongler entre le temps long de la recherche, celui de l'immédiateté de l'info, avec toutes les conséquences que ça a, même pour des revues scientifiques prestigieuses, je pense évidemment à The Lancet et à cette grande étude sur la chloroquine, qui alors vrai ou faux, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on va trop vite? Cécile Lestienne, vous en pensez quoi?
Moi, je réagirais juste plus sur le principe et pas sur cette étude en particulier.
Bien sûr.
Effectivement, oui, le temps de la recherche n'est pas le même que celui de l'info immédiate et c'est normal. Et tout comme tout cet emballement médiatique, la place que ça a pris ces derniers temps, je trouve, sur les réseaux sociaux, sur le web, partout, voilà, est quand même assez caractéristique, je pense, d'une certaine confusion des genres. Un petit peu comme si on confondait un peu savoir et croyance. La science est une question de savoir qui s'élabore lentement, susceptible d'être mis en question.
C'est ça.
Mais qui se conforte par des expériences, par tout un tas de process assez qualifiés. La croyance, c'est d'un autre ordre. Ou comme si parfois on confondait aussi la science et la démocratie. Je veux dire par là que l'élaboration de services du savoir scientifique, c'est pas une question démocratique au sens où on ne va pas voter ou faire un sondage ou un référendum pour savoir si un médicament est meilleur qu'un autre. Mmh. Voilà, ce n'est pas non plus une question de compromis. Là, si vous avez des partisans de la Terre plate et puis d'autres qui vont vous dire que la Terre est ronde, on ne va pas trouver un compromis en disant que la Terre ressemble finalement à une bouée, ni plate ni ronde. Voilà, c'est pas comme ça que s'élabore le savoir. C'est compliqué parce qu'en ce moment, effectivement, c'est important, on est tous inquiets, on a envie de certitude, mais il faut comprendre que la science s'élabore plus lentement, même si elle est allée très 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 vite, je trouve, quand même, sur cette question de coronavirus ces derniers mois.
C'est vrai, hein, Mathieu Novak, on peut à la fois remarquer à quel point la science a été vite sur la compréhension de ce virus, mais il n'y a pas de certitude, tout peut être remis en question, surtout avec un nouveau virus comme celui-là, d'où cette sorte de confusion dont parlait Cécile Lestienne, Mathieu Novak.
Oui, on parle vraiment de quelque chose de totalement inconnu. La première chose qu'il faut bien comprendre, bien garder à l'esprit jusqu'au bout, c'est qu'on parle d'un virus auquel on n'a jamais été confronté. Mmh. On connaît d'autres virus de la famille des coronavirus, mais celui-là, pas du tout. Donc même des questions comme celui « est-ce qu'il va disparaître cet été ?» On a l'impression, du moins en Europe, que l'épidémie se calme, mais c'est des questions qui restent ouvertes. Alors mmh. après, il y a des questions de science dont on sait qu'elles vont prendre du temps, celles du vaccin. On sait que le vaccin, ce n'est pas pour les prochaines semaines, qu'un vaccin, c'est une question d'au moins 18 mois. Mais la question du traitement, tant qu'on est en phase épidémique et qu'on a notamment, par exemple, aujourd'hui en Amérique latine, un grand nombre de cas encore aujourd'hui, mm-hmm. il y a une épidémie qui est très active, on veut avoir des réponses tout de suite, on veut. Mais effectivement, ce n'est pas une question de croyance, il faut des preuves solides. Et là, le pataquès qu'il y a autour de cette étude du Lancet, c'est problématique pour plusieurs raisons, notamment parce que le fait que l'OMS suspende son essai, que les Britanniques suspendent leur essai, ça fait qu'on va rester dans le flou encore plus longtemps. Les essais ne sont pas vraiment suspendus, mais on a arrêté de recruter des nouveaux patients. Mais ça fait que les réponses qu'on cherche, on va avoir encore plus de mal à les trouver. Donc on reste dans le brouillard et il faut hélas être patient, et ça dans un temps où il faut soigner les gens en même temps.
C'est ça, il faudrait arriver à pouvoir continuer même si on n'est pas sûr, puisqu'on est sûr de rien, vous l'avez dit. Pas de certitude donc, mais tout de même, hein, on l'a rappelé aussi, d'énormes avancées dans la connaissance de ce nouveau virus. La recherche est mobilisée, on peut le dire, dans le monde entier, vraiment sur tous les continents, mobilisée aussi sur tous les autres virus hein, avec lesquels nous cohabitons, et pas seulement pour le pire, depuis les origines. Les origines de l'humanité, là je pense que Thomas Cavaillé-Foll, qui est aussi en ligne avec nous, doit voir où je veux en venir à cet article, son article impressionnant hein, à lire dans Science et Vie, qui remonte aux origines de l'humanité, une humanité qui pourrait bien prendre sa source en Afrique australe, à Makadi, Kadi, en langue Tswana d'Afrique australe, où pourrait bien se trouver le berceau de l'humanité, là où tout a commencé, en Afrique évidemment, même si les paléontologues, souvent comme Jean-René Boisserie et d'autres, n'aiment pas trop cette expression de l'Afrique comme berceau de l'humanité. Allez, je vous propose d'écouter ce paléontologue, Jean-René Boisserie, qui travaille en Éthiopie, dans la bien nommée vallée de l'Omon, et vous nous décrirez après, Thomas Cavaillé-Foll, ce vaste paradis disparu, Makadi-Kadi, ou le berceau de l'humanité.
J'aime pas bien ce terme de berceau de l'humanité. Le berceau, c'est un objet que vous avez quand vous ne savez pas marcher. Et puis dès que vous savez marcher, vous quittez votre berceau, vous l'abandonnez définitivement. Et puis on le met au grenier ou à la cave, on le revend et c'est terminé, on n'en parle plus. Alors l'Afrique, c'est absolument pas ça pour l'humanité. L'Afrique, c'est l'endroit où on a appris à marcher, où on s'est mis debout. Mais on ne la quitte pas. On y reste pendant l'essentiel de notre histoire, jusqu'à... Pour l'instant, les plus anciens connus hors d'Afrique de nos ancêtres, c'est 1,8 million d'années. 7 millions pour les plus anciens connus en Afrique. Donc pendant 5 millions d'années, un peu plus de 5 millions d'années, notre histoire a été exclusivement africaine. Ensuite, des humains sont partis à la conquête du reste du monde. Mais ça ne veut pas dire qu'on a abandonné l'Afrique. Absolument pas. Parce qu'à 1,8 million d'années, à 1 million d'années, ici dans la formation de Chungwa, on trouve des restes humains. Donc ils étaient là et ils ont continué à évoluer sur place. Et c'est même encore plus fort, c'est que toutes les plus grandes innovations, que ce soit en termes biologiques ou en termes culturels, ont eu lieu en Afrique jusqu'à très récemment. Ça veut dire que les premiers représentants de notre espèce Homo sapiens à 300 000 ou 200 000 ans, c'est en Afrique, pas ailleurs dans le monde. Donc ça veut dire que l'évolution, le centre d'évolution de l'humanité, c'est l'Afrique. Nous, les humains, nous sommes essentiellement un grand mammifère africain. Et donc la dispersion des humains à l'échelle du globe, c'est une africanisation de la planète.
Une africanisation de la planète, voilà qui est dit et bien dit par le paléontologue Jean-René Boisserie, interrogé dans la vallée de l'Omo en Éthiopie par Charlie Dupiot. Alors c'est un peu plus au sud, hein, en Afrique australe, que vous nous emmenez, Thomas Cavaillé-Foll, dans cet article de Science et Vie. Bonjour d'abord Thomas, merci d'être avec nous.
Bonjour Caroline, donc, j'espère que vous allez bien.
Eh bien je vais bien, vous aussi j'imagine, en télétravail, mais on peut au moins se parler, et tant mieux, et parler surtout de nos origines, hein, du lieu où tout a commencé, à partir duquel se sont faites toutes les différentes migrations. Donc vous nous emmenez dans ce désert du Kalahari qui fut autrefois un paradis de verdure, j'adore ce nom, alors je ne cesse de le répéter, qui s'appelle Makadi-Kadi.
Makadi-Kadi.
C'est ça, hein, la vaste terre, aujourd'hui sans vie, hein, c'est en langue Tswana.
La
l'Afrique australe.
Terre sans vie, c'est exactement la traduction effectivement de ce terme, Makadikadi. Mais effectivement, avant ça, c'était un énorme lac il y a près d'un million d'années, par exemple, il faisait à peu près le tiers de la France. C'est un lac qui était en pleine contraction. Et donc, il s'est petit à petit asséché, mais en s'asséchant, il a donc fait des rivières, des îles, d'autres petits lacs, vu que, comme je disais, c'était un lieu, en fait, où pullulait la vie avant son assèchement, il y a quelques dizaines de milliers d'années.
C'est situé exactement où, pour nous, aujourd'hui
C'est dans le désert du Kalahari, maintenant. Ça s'appelle pan de Makadikadi. C'est ça, c'est au nord du Botswana.
Et c'est là... C'est là que tout a commencé, on peut dire ça comme ça, même si cette expression de berceau, hein, on a dit à quel point elle pouvait être complexe, mais c'est là que tout a commencé pour nous, pour l'humanité.
Tout à fait, il l'a bien dit, le paléo-anthropologue d'ailleurs que vous avez, qu'on a pu écouter tout à l'heure, Homo sapiens est né en Afrique tout de même, et il a utilisé le terme naître presque, donc il y a aussi cette idée de berceau. Le fait est qu'il est très compliqué de savoir exactement où, et d'ailleurs la théorie en vogue ces temps-ci est plutôt au multirégionalisme africain. Oui. En fait, ce serait un peu partout que les Homo sapiens... aurait émergé et puis au fil des croisements il aurait donné l'espèce, l'homme que nous sommes aujourd'hui, l'homme moderne. Mais en fait cette théorie là elle est aussi contestée, et la théorie du berceau de l'humanité, à savoir qu'il y avait une population en particulier à un endroit plus ou moins précis, un énorme endroit, une énorme population, comme je vous disais, le Makadikadi faisait un tiers de la France. Mais elle est toujours en liste, en fait on avait un peu oublié, et il y a une étude qui est sortie il y a récemment qui l'a pointé là. Et donc nous, on s'est penché un peu sur cette étude parce que justement, elle allait un peu contre les conventions actuelles. Et en cherchant un peu, on s'est rendu compte que le sud de l'Afrique, mine de rien, sur plein de pistes différentes, paraissait en tout cas être l'endroit où serait né l'homme moderne. C'est-à-dire pas Homo sapiens, parce qu'Homo sapiens, il est né, comme on l'a dit, par exemple, les premiers fossiles attribués à Homo sapiens sont originaires aujourd'hui, ce qu'on a trouvé du Maroc, ce sont les fossiles de Jebel Irhoud qui ont 300 000 ans. Mais l'homme moderne, c'est-à-dire la population qui est à l'origine de nous tous aujourd'hui, elle serait née autre part en fait. Parce que c'est pas parce qu'on trouve un fossile qu'il est forcément notre ancêtre, ça peut être un cousin éloigné. Et donc on s'est penché sur cette région qui est l'Afrique australe, et on s'est rendu compte que toutes les pistes menaient vers là-bas en fait.
C'est-à-dire quoi, tous les fossiles, c'est ça?
Eh ben, par exemple, il y a une étude sur les fossiles, en tout cas, sur tous les fossiles Homo retrouvés jusqu'ici, et qui a tenté de le comparer avec notre morphologie actuelle. C'est une étude d'ailleurs du Musée de l'Homme, je crois, et ils se sont rendus compte que le fossile qui ressemblait le plus à notre ancêtre commun hypothétique, celui qui avait vraiment la morphologie qui aurait pu donner naissance à l'humain moderne, c'était celui de Florijbad, qui est en Afrique du Sud. Il y a eu aussi une étude, par exemple, sur la diversité génétique, à savoir, c'est en fait, elle est assez incroyable cette étude,
parce
qu'elle est
très
compréhensible. C'est en fait une population initiale, on va dire qu'il y a une énorme diversité génétique. Et lorsqu'il y a une migration de cette population initiale, il y a juste quelques individus qui partent. Donc on perd un peu de la diversité qu'il y avait dans la population initiale. Donc en fait, du point de vue de l'origine, au fur et à mesure qu'on s'écarte du point d'origine, on perd en diversité génétique. C'est par exemple comme ça qu'on a prouvé que l'humain était sorti d'Afrique il y a 70 000 ans. Parce que la diversité génétique en Europe, en Asie et aux Amériques, elle est petite par rapport à celle qu'on retrouve en Afrique, et elle est représentée aussi en Afrique. Mais c'est qu'une partie de la diversité globale. Or, est-ce qu'on peut aller plus loin? Parce que l'Afrique, c'est énorme. Et la question est de savoir si on peut aller plus loin, et c'est aussi en Afrique du Sud qu'on retrouve la plus grande diversité génétique humaine.
C'est fabuleux. C'est-à-dire la plus grande diversité génétique, là où effectivement l'homme est né. C'est-à-dire là où il y a encore la plus grande diversité génétique aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Donc en fait, il y a plein de petites études comme ça qui ont toutes pointé vers l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud, le sud de l'Afrique, pardon.
Oui, c'est le sud de l'Afrique, c'est toute l'Afrique australe, voilà. Et il y a aussi l'histoire climatique qui le prouve, c'est-à-dire que effectivement, les changements climatiques sur place ont pu permettre peut-être l'émergence de nous-mêmes, hein, de ces autres mammifères africains.
Des humains modernes, comme on dit. Ben en fait, c'est ça. L'Afrique australe, c'est immense, et si on veut chercher un endroit particulier, c'est vrai que le Makadikadi, il paraît C'était comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, très bien, c'était un paradis. On sait que donc c'était un énorme lac où ça pullulait de vie. On sait que des humains y habitaient. On n'a trouvé aucun fossile. Hein. C'est ça qui est assez extraordinaire de lancer une théorie sur un berceau de l'humanité alors qu'on n'y trouve aucun fossile humain.
Ils ne se sont pas conservés, en tout cas.
Exactement. C'est juste des conditions de conservation qui font qu'ils n'ont pas été découverts. Par contre, on sait que c'était habité parce qu'on a trouvé des milliers d'outils. En fait, qui prouve d'ailleurs une habitation sur le long terme, des outils dont la sophistication semble évoluer. Donc, sur plus d'un million d'années, il y avait des humains là-bas, c'est certain. Et par contre, c'est vrai qu'il y a 200 000 ans, à peu près à l'âge où semble en tout cas, où il y a notre dernier ancêtre commun en temps, enfin, c'est l'ancêtre commun hypothétique, bien sûr, mais où semble émerger l'humain moderne, eh ben, il y a une énorme sécheresse qui arrive en Afrique. Et tous les environs du Makadikadi et de l'Afrique australe aussi semblent vrai, ça devient une zone plutôt aride. Et c'est une sécheresse qui va durer pendant des dizaines de milliers d'années. Donc c'est pas rien. Donc le Makadikadi était un refuge. Forcément, c'était un refuge. Et donc peut-être le refuge de la population qui aurait donné naissance à toute l'humanité actuelle.
Peut-être au Makadikadi pour retrouver nos origines africaines, là où tout a commencé, dans le sud de l'Afrique. À lire votre article, Thomas Cavaillé-Foll, passionnant, schéma et illustration à l'appui, dans Science et Vie de ce mois de juin, dont nous avons, et oui, chers amis auditeurs, quelques exemplaires à vous offrir, si vous êtes patients hein, pour l'envoi et le recevoir, et que vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook autour de la question « Comment la science s'infuse et se diffuse jusque au sud de l'Afrique et même jusqu'en Afrique du Sud avec Nakane sur RFI Clairvoyant. Voyons le Sud-Africain Nakane sur RFI autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Il y a du soleil dans la recherche avec vous, Philippe Pajot. Bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tout le monde.
Vous nous entraînez, Philippe, dans la recherche vers la fournaise, hein, carrément, avec des tempêtes solaires qu'il était indispensable de prévoir. On va donc parler météo solaire, mais on va d'abord partir sur les traces des sondes. Il y en a eu deux, hein, parties à l'assaut du soleil, la sonde européenne, Solar Orbiter, et puis la sonde américaine Parker.
Exactement, oui, c'est un lancement presque conjoint, on va dire, puisqu'il y en a une qui a été lancée en août 2018, l'américaine Parker et l'européenne Solar Orbiter qui a été lancée le 10 février dernier, donc il n'y a pas très longtemps. Et ces sondes sont actuellement en train de faire leur voyager vers le Soleil et elles vont toutes les deux un peu en même temps, avec des instruments un peu différents et des objectifs différents, étudier le Soleil. Alors d'abord, on peut donner peut-être quelques chiffres, parce que c'est extrêmement
impressionnant. Allez-y, ah oui, c'est génial.
Alors sur les vitesses de ces sondes, par exemple, la plus rapide Parker Probe, la sonde américaine, va atteindre une vitesse quasiment de 700 000 km par heure. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, c'est quasiment 200 km par seconde. Donc ce sera la sonde la plus rapide qui a jamais été envoyée par l'homme. Et pourquoi elle va être si rapide? Parce qu'elle va s'approcher en fait très près du Soleil. Ces deux sondes vont s'approcher à très très près du Soleil. Pour la sonde américaine, ça va être 7 millions de kilomètres, donc quasiment 10 fois le rayon solaire, ouais. Et la sonde européenne, 42 millions de kilomètres. Et ce sont des missions donc, qui vont durer, qui vont commencer, hein, puisque je vous ai dit, en 2018, mm-hmm. la sonde Parker a été envoyée. Elles vont durer en gros jusqu'en 2025-2026. Et pendant toute cette période, en fait, qui s'étend de maintenant jusqu'en 2026, elles vont s'approcher petit à petit du Soleil avec des trajectoires de plus en plus proches. Des trajectoires pas du tout directes. Hein, faut savoir qu'on n'envoie pas une sonde sur le Soleil directement.
Et pour cause, oui, c'est ça.
En le voyant, ça peut être très lent, tout simplement parce que le Soleil, son trajectoire est très forte. Si vous l'envoyez directement, en gros, vous tombez dedans. Donc, vous ne pouvez pas freiner et donc vous tombez dedans. Et donc, en fait, toutes ces sondes-là, que ce soit Solar Probe ou Solar Orbiter, ces deux sondes-là, elles sont des trajectoires assez lentes. Et elles profitent également, d'ailleurs, de l'assistance gravitationnelle des planètes alentour de Vénus ou de Mercure, essentiellement de Vénus. Et l'avantage, c'est que ça ne coûte pas beaucoup d'énergie pour les envoyer pour mm-hmm. justement qu'elles se mettent en orbite. Et le désavantage, évidemment, c'est que c'est long, parce que là, il faut attendre quelques années. L'exemple le plus probant, c'est une sonde qui est en route vers Mercure, qui va mettre 7 ans pour arriver à Mercure, alors que ce n'est pas si loin que ça quand on regarde les chiffres.
Oui, enfin, ce n'est pas si loin que ça, il faut le dire. Mais qu'est-ce qu'elles vont chercher autour du Soleil, pas à se carboniser, hein. Ben oui, qu'est-ce qu'elles font?
Bien, alors justement, elles étudient justement le Soleil et l'environnement solaire, et c'est-à-dire notamment le vent solaire, des particules qui s'échappent du Soleil en permanence à toute allure, qui s'échappent en gros à 400 km par seconde et qui arrivent vers la Terre. Et donc, l'un des objectifs, c'est de comprendre d'où vient ce vent solaire. Quel est le rôle du champ magnétique? Parce que le champ magnétique est quelque chose de tout à fait primordial pour comprendre cet état de la matière qu'il y a dans l'espace entre nous et le Soleil, qu'on appelle un plasma, un état ionisé, et également comprendre le mystère de la couronne solaire. Alors, il faut savoir que la surface du Soleil est à peu près à 6000 degrés,
oui.
Et dès que vous élevez un petit peu en surface, vous atteignez des millions de degrés. Et on ne comprend pas du tout comment...
C'est ce qu'on appelle la couronne solaire, c'est ça, beaucoup plus chaud.
La couronne solaire, voilà, donc beaucoup plus chaude, et donc ce mystère du chauffage de la couronne solaire, malgré 50 ans d'études du Soleil avec des sondes qui ont déjà visité le Soleil, ce n'est pas du tout résolu. Et donc du coup, c'est un des objectifs principaux, l'objectif principal de ces sondes, c'est aussi de comprendre ce mystère du chauffage solaire, mais également de comprendre et de prédire les éruptions solaires.
Et oui, parce que ça c'est encore autre chose de cataclysmique, et qui en plus, si je ne m'abuse, menace aujourd'hui un petit peu notre technologie. Enfin, nous sommes dépendants de technologies qui pourraient être affectées par ces éruptions solaires.
Affecté de manière dramatique, hein, puisque faut savoir que lorsqu'une très grosse éruption se produit, on est en partie protégé par la magnétosphère, qui est une sorte de bouclier qui nous protège. Mais si l'éruption est trop grosse et que trop de particules arrivent, trop énergétiques, eh bien, ces particules peuvent arriver jusqu'à la Terre et perturber les communications, perturber le réseau électrique, perturber les satellites. On estime qu'une tempête solaire comme il y avait eu en 1859, alors ça ne date pas d'hier, certes, 1859, mais si elle avait lieu aujourd'hui, avec toute la dépendance effectivement que nous avons des technologies, d'Internet, etc., ça coûterait des milliers de milliards d'euros, sans doute, ça ferait des milliers de milliards d'euros de dégâts. D'où évidemment l'importance de bien comprendre ce qui se passe et de pouvoir prédire ces éruptions.
La météo solaire. Alors pour tout savoir, ou presque, sur le Soleil, sa météo, ses rayonnements, ses éruptions et son influence sur notre toute petite planète, c'est à lire dans la recherche de ce mois de juin, dont nous avons aussi quelques exemplaires cadeaux pour vous, amis auditeurs curieux et patients, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. On l'a dit aujourd'hui sur RFI, il y a du Soleil et je veux du Soleil au petit bonheur.
Trop vite, dans un monde en super plastique, je me retrouve.
Du soleil au petit bonheur sur RFI, rien que du soleil autour de la question comment la science infuse et se diffuse. On vient de parler du soleil et maintenant on va faire, je ne sais pas si c'est encore plus fort, mais avec vous Philippe Hénaré-Jauze dans Ciel et Espace, on va parler supernova avec de nouvelles candidates pour être supernova.
Alors oui, c'est d'autres soleils, mais ce sont des soleils beaucoup plus turbulents. Et si on en parle dans Ciel et Espace, si c'est notre couverture ce mois-ci, eh bien c'est parce que, vous souvenez-vous, pendant cet hiver, il y a un soleil, il y a une étoile qui a fait parler d'elle, c'est Bételgeuse. Bételgeuse qui s'est illustrée dans le ciel par une baisse de luminosité, c'est une des étoiles les plus brillantes du ciel. Et elle s'est illustrée cet hiver par une baisse de luminosité sans précédent. Elle a dégringolé dans le classement des étoiles les plus brillantes. Et certains ont dit, mais tiens, est-ce que cette étoile massive dont le destin est d'exploser en supernova n'est pas en train de nous dire qu'elle va agoniser comme ça prochainement? Ce qui aurait fait un feu d'artifice si Bételgeuse avait explosé en supernova, elle aurait été d'un seul coup plus brillante que la Lune. Donc ça aurait été un grand spectacle. Et donc nous avons pris pour appui sur ce clin d'œil de Bételgeuse pour revenir sur tout ce que l'on sait sur les supernovas.
Qu'est-ce que c'est déjà une supernova, Philippe Hénaré-Jauze?
Étoile massive qui fait plus de 8 fois la masse du Soleil, donc c'est des grosses étoiles, très rapidement, quelques centaines de millions d'années, et qui, par un processus physique naturel, finissent leur vie en explosant dans une gerbe de lumière incroyable et qui détruisent tout dans leur environnement.
C'est parmi les événements les plus cataclysmiques qui existent dans l'univers.
Il y a eu un événement cataclysmique qui est à l'origine de l'univers, c'est le Big Bang. Et puis derrière, vous trouvez certaines supernovas qui sont extrêmement puissantes. Après, il y a d'autres événements puissants, mais c'est en dessous de la supernova. Donc c'est quand même les explosions les plus terribles qu'on connaît dans l'univers et dans les galaxies. Donc on a commencé à poser des questions, évidemment, sur Bételgeuse. Qu'est-ce qu'on en sait? Et j'ai interrogé, par exemple, Miguel Montargès, qui est un chercheur français qui observe Bételgeuse avec le VLET et avec l'optique adaptative qui permet de voir la surface de cette étoile, qui permet de voir son environnement, et qui prend des photos et qui montre un peu ce qui se passe autour de Bételgeuse. Alors, le clin d'œil de cet hiver, on le sait déjà, c'était sans doute un nuage de matière qui a été éjectée par l'étoile et qui est venue se mettre entre nous et elle, ce qui l'a masqué et qui a atténué artificiellement son éclat.
D'accord,
a priori,
donc
c'est ça, et ça ne nous dit pas qu'elle va exploser en supernova, mais quand je lui ai posé la question, lui le spécialiste, est-ce que Bételgeuse c'est celle qu'on connaît le mieux de supernova? Il a dit, finalement, je ne suis pas sûr qu'on la connaisse vraiment. Et en fait, ça dit vraiment tout ça, c'est-à-dire que on ignore, quand on observe les étoiles de loin, on ignore tout de leur processus d'évolution. Par exemple, Bételgeuse pourrait très bien avoir gobé une autre étoile dans son existence. Auquel cas, ça changerait sa masse, ça changerait ses conditions physiques et ça changerait son destin. Donc ça, on ne le sait pas et on n'a pas les moyens de le savoir.
Donc Philippe Hénaré-Jauze, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas prévoir une supernova. Enfin, on peut essayer d'eux, mais non, on ne peut pas savoir si elle va le devenir ou pas.
Et oui, c'est ça, on essaye. Mais pour l'instant, on ne peut pas, parce qu'en plus, le phénomène qui conduit à la supernova se passe à l'intérieur de l'étoile. On voit, c'est la surface. Et les signes avant-coureurs mettent des milliers d'années à arriver à la surface. Ils arrivent bien trop tard. Le seul signe avant-coureur, c'est l'émission de neutrinos, qui sont des particules qui sont émises au moment de la supernova, quelques moments avant. Mais c'est tout. Et encore, ce n'est pas très directionnel. C'est-à-dire, quand on reçoit des neutrinos, il va falloir aussi déterminer de quelle étoile ils proviennent. Donc, il faut regarder dans tous les sens. Donc, on a fait un dossier qui parle bien entendu de Bételgeuse et qui nous permet à travers elle de savoir ce que c'est que la supernova. Mais aussi, on s'est livré à un petit jeu qui a consisté à dire, bon, d'accord, ce n'était pas celle-là cette fois-ci, mais quelles sont les étoiles favorites? Et donc, on a fait une double page, on a essayé de faire des pronostics pour savoir quelle sera la prochaine supernova, mais sachez bien que chaque fois qu'on fait des pronostics, c'est toujours une étoile qu'on n'avait pas repérée qui explose, évidemment.
Eh, c'est ça, voilà, rien que pour vous faire la nique. En tout cas, pour tout savoir, pour savoir si on peut prévoir quelle sera la prochaine supernova, c'est la une et le dossier de Ciel et Espace, dont nous avons aussi quelques exemplaires à vous faire gagner, chers amis auditeurs, si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook. Allez, ensemble, en attendant la prochaine supernova, ensemble, on va plus loin sur RFI, avec grand malade.
À celui qui veut construire sa maison tout seul, à celui qui pense que l'enfer c'est les autres, à celui qui ne tend jamais la main par orgueil, à celui qui préfère dire le mien que le nôtre, à celui qui pense qu'on doit être seul pour être libre, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre, j'affiche l'esprit d'équipe comme un emblème. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. L'homme est un animal qui est fait pour vivre en meute. Tout seul il s'ennuie, il stagne, il se perd. Il est pour son voisin le meilleur thérapeute. Il est pour ses prochains le plus fiable des repères. Parce que plus que jamais, j'aime la force de l'équipe, la puissance du collectif, je l'ai vécu et j'y crois. Et même si je suis toujours mauvais en mathématiques, je pense que chez l'homme, 1 plus 1 égale 3. Tout seul, je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe, comme un besoin. Tout seul, je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe, comme un besoin. Les hommes sont plus forts quand ils savent leurs faiblesses. Chaque interaction est féconde, explique-leur. Que l'entraide et le partage, c'est l'avenir de l'espèce. Quand la vie est trop lourde, portons-la à plusieurs. Tout seul, je vais vite, ensemble, on va loin. Quand j'ai fait ma partie, je peux passer le témoin. Tout seul, je résiste, ensemble, on craint rien. On progresse, on grandit et putain, on rigole bien. Tout seul, je vais vite, ensemble, on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. Tout seul, je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin.
L'esprit d'équipe comme un besoin, c'est le cas de le dire aujourd'hui. Je fais un petit clin d'œil à Jérémy Bessé de l'autre côté de la vitre qui jongle entre WhatsApp, Skype et le reste. Donc il n'y a pas que Grand Corps Malade qui le slame sur RFI, qu'ensemble on est plus fort. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, on découvre avec vous Cécile Estienne. Cette fois-ci c'est dans Cerveau et Psycho que l'apprentissage aussi, ça se passe mieux en groupe, en collectif, ensemble, plutôt que tout seul, comme beaucoup d'enfants ont dû d'ailleurs le vivre en confinement. Alors nous sur RFI, dans 7 milliards de voisins, avec Emmanuel Basti, tous les matins, on a découvert qu'on pouvait faire ensemble l'école à la radio. Allez, c'est après ce petit jingle que vous allez, Cécile Estienne, nous expliquer pourquoi on apprend mieux ensemble.
L'école à la radio.
Pourquoi, Cécile Estienne, la classe, hein, comme le dit le neuroscientifique Jean-Philippe Lachaud dans ce numéro de juillet-août hein, de Cerveau et Psycho, la classe est un plus pour apprendre?
Oui, cet article sera effectivement publié dans le numéro de juillet-août, mais il est déjà en ligne hein, sur le site de Cerveau et Psycho.
Ah, très bien, très bien, de le préciser, merci.
Et c'est vrai que voilà, en ce moment, alors que les écoles réouvrent plus ou moins facilement et que le corps enseignant prépare la rentrée de septembre déjà, voilà, j'avais envie de parler de cet article de Jean-Philippe Lachaud qui fait suite à un article publié dans Nature Review Neuroscience sur l'apprentissage social. Voilà, mm-hmm. L'apprentissage social, c'est cette compétence, voilà, qui nous permet d'apprendre, non seulement d'apprendre tout seul, mais d'apprendre aussi en regardant les autres faire. Voilà. Donc, c'est pas une compétence qui est spécifiquement humaine. Animaux aussi, beaucoup d'animaux aussi savent apprendre de cette façon-là. Et par exemple, bah, quand on fait des expériences avec des rats, par exemple, si un rat voit un de ses congénères rentrer dans une pièce et recevoir un petit choc électrique, normalement, il ne va pas essayer de rentrer lui-même dans la pièce parce qu'il va comprendre que, qu'il s'est passé quelque chose et qu'il n'a pas intérêt à le faire. Et,
oui, l'apprentissage, au fond, Cécile Etienne, il est toujours social. On voit bien avec nous nos petits dômes, hein, comme ils imitent et comme ils apprennent en imitant ce qu'on veut qu'ils imitent et comme ce qu'on veut qu'ils n'imitent pas, d'ailleurs. Hein.
Absolument. D'ailleurs, on voit bien que, qu'en termes d'évolution, c'est très pratique, ce type d'apprentissage, parce que ça minimise le risque en maximisant le gain voilà, d'apprentissage dans un temps donné. Donc, on comprend très bien que ça soit que c'était sélectionné. Voilà, ça demande, c'est très développé probablement chez l'homme parce qu'en plus de cette compétence-là, il a le langage voilà, qui permet de développer encore plus cela. Voilà. Ça demande aussi des capacités d'empathie pour que ça fonctionne, parce qu'il faut que vous compreniez ce que l'autre ressent pour que cela voilà, fonctionne. Oui, bien sûr. Et donc, c'est très important à l'école. Et donc, effectivement, là, nos enfants ont joué les petits Robinson par cas de force majeure. Mais effectivement, apprendre avec les autres démultiplie les capacités d'apprentissage. Voilà,
un petit peu comme ça. Et donc
le chantait le grand corps malade.
C'est ça. Et puis du coup, le virtuel, enfin, je veux dire, c'est très bien par écran interposé, mais c'est pas ça la solution. Et c'est pas ça qu'on va retirer de. Même si on peut le faire comme ça, c'est pas ça qu'on va retirer de cette pandémie autour de l'apprentissage.
Non, je crois pas. Même si on a appris beaucoup de choses dans cette pandémie, il y a peut-être des choses qu'on pourra garder et doit se servir, mais la relation à l'autre, voir l'autre dans une situation réelle, hein, pas dans des situations, pas sur des plateformes vidéo, c'est très différent. Aussi pour le partage de la motivation, voilà, parce qu'en fait, quand les enfants voient un autre élève réussir et donc et en tirent plaisir évidemment de sa réussite, c'est un puissant facteur de motivation et en ça aussi c'est très important. On dit tout le temps que l'école, c'est important pour apprendre les relations sociales avec les autres, ce qui est vrai, mais pas uniquement. C'est aussi pour... ça magnifie les compétences d'apprentissage. Alors évidemment, ça a un petit peu des limites, hein, l'apprentissage social, notamment quand vous avez quelqu'un qui surréagit à un danger quelconque. Voilà.
Oui.
Par
exemple,
quand vous voyez des gens, comme on l'a vu pendant ce temps de confinement, dévaliser les supermarchés pour acheter des tonnes de papier toilette, si tout le monde fait la même chose, voilà, peut-être que ce n'était pas la bonne réaction à avoir.
Là, vaut mieux ne pas imiter voilà. tout de suite et tout.
Comme d'habitude, il faut savoir raison garder et garder un petit peu de recul, mais c'est vraiment très important. Et la collectivité pour l'apprentissage est important, et notamment par le jeu. Dans un autre article que nous avons publié récemment de Grégoire Borst, qui est le directeur du laboratoire de psychologie du développement et d'éducation de l'enfant, la petite idée, voilà. On a fait une grande interview avec lui récemment sur l'importance du jeu et notamment du jeu collectif dans le développement des capacités cognitives de l'enfant.
Et il faut jouer, ça fait du bien. Et ça permet d'apprendre.
Parce que ça fait plaisir, parce que on le fait facilement, parce que ça marche sur le circuit de la récompense, mais ça aussi permet de. On s'est aperçu notamment que la maturation de ce fameux cortex préfrontal, hein, vous savez, celui qui vous permet justement d'avoir du recul, voilà, se fait d'autant mieux que vous pouvez passer d'un registre de l'imaginaire à la vie réelle, ce que font beaucoup les enfants avec les jeux de rôle. Vous savez,
je serai
un pirate et tu serais, voilà, et tu seras la princesse et tout ça, voilà. Et ça se joue en groupe, voilà, ça se joue en collectif.
À l'apprentissage donc social, collectif et ludique, c'est à lire donc sur internet et puis dans le numéro de juin de Cerveau et Psycho dont nous avons aussi quelques exemplaires à vous offrir, chers amis auditeurs, de saines lectures qui valent mieux que d'être tout seul ou qui valent mieux que beaucoup de blabla, sauf quand ce blabla est signé Philippe Catherine sur RFI.
Tu parles blabla bla 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 bla. Bla 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 b
bla 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 bla. Tu parles bla 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 bla. Tu parles, tu meurs, tu parles plus. 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 Tu parles, tu meurs, tu parles plus.
L'insolent Philippe Catherine sur RFI, ce n'est pas du blabla, Mathieu Novak, mais un système de décodage cérébral qui permettra de lire fidèlement la parole dans le cerveau, ou plutôt, comme vous l'expliquez très bien dans Science et Avenir, de créer même de la parole chez des patients, notamment cérébraux lésés, qui pourraient communiquer ainsi, c'est ça ?
Oui, on vit une époque assez extraordinaire où des rêves de science-fiction, de lire dans le cerveau, sont en passe de devenir réalité. En tout cas, pour certains malades, donc là on parle de malades qui ont subi un AVC, qui ont par exemple sont atteints d'une maladie de Charcot, c'est une maladie neurodégénérative, ou d'un Locked-in syndrome, enfin tous des malades qui n'arrivent plus à s'exprimer. Mmh. Et donc, le but que l'on poursuit, c'est d'essayer d'avoir un système qui permet de lire dans leur cerveau ce qu'ils voudraient dire, qu'ils n'arrivent pas à dire, de décoder ce message et de le transmettre à une machine qui, elle, va le vocaliser. Des messages aussi simples que « j'ai soif », par exemple, c'est l'exemple qu'on prend. Voilà, la personne voudrait dire « j'ai soif », elle y pense très fort, elle envoie ce signal à sa bouche, mais ça ne fonctionne pas parce que son cerveau est abîmé. Mmh. Et on arrive à décoder ce signal, à le transmettre à une machine, et une machine va le dire pour elle.
Ce serait quoi comme un signal, enfin un signal électrique, mais qu'on reconnaîtrait comme voulant dire « j'ai soif » ou d'alerte, enfin.
Oui, c'est du signal électrique parce que dans le cerveau, tout se passe sous forme de signaux électriques. Alors là, on a réussi, c'est des chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco, financés par Facebook, qui ont réussi à obtenir ce résultat chez 4 patientes qui étaient déjà équipées d'électrodes vraiment qui rentrent dans le cerveau. Mmh. Alors, elles étaient équipées pour des explorations, elles étaient atteintes d'épilepsie. Mmh. Et en fait, en allant chercher directement dans le cortex la façon dont les ondes électriques se forment et essayer de les décoder, on a réussi à savoir ce qu'elles disent. Alors, ça c'est pas sur n'importe quelle phrase. Pour le moment, on les a entraînées avec une cinquantaine de phrases, c'est-à-dire environ 250 mots, pendant 40 minutes, avec une intelligence artificielle qui a essayé d'associer la phrase qu'elle voulait dire à celle qu'elle disait effectivement. Mm-hmm. C'était des phrases qu'elle piochait au hasard. Et après, de les retrouver, ces phrases-là, en prenant une phrase au hasard et d'avoir seulement 3% d'échec dans l'interprétation de la parole.
Mathieu Novak, c'est à la fois génial pour quelqu'un qui est victime d'AVC épileptique, enfin voilà, pour tous les cérébraux lésés, c'est extraordinaire de pouvoir arriver à faire passer ce qu'on veut dire. On a bien compris, c'est pas pour l'instant un message philosophique, mais c'est aussi assez affolant. Parce que effectivement, on peut lire ce qu'on pense, nos pensées, quoi, ce qu'on veut dire. Voilà, on peut pas s'empêcher de se dire que c'est aussi affolant.
Oui, parce que effectivement, c'est les chercheurs qui font ça en sont bien conscients, et il y a des éthiciens, des philosophes qui réfléchissent d'ores et déjà en amont, parce qu'on peut pas faire ce genre d'expérimentation sans réfléchir. Là, les chercheurs, déjà, la première chose qu'ils ont faite, c'est que dans le cerveau, il n'y a pas une zone du langage bien précise. Il y a différentes zones, des zones qui permettent d'entendre, des zones qui permettent de comprendre et des zones qui permettent de produire le langage. Donc là, déjà, ils se sont attelés à essayer de se concentrer sur cette zone de production. Donc on est déjà quand la personne veut parler. Mm-hmm. Donc il faut qu'elle exprime ce désir de parler pour qu'on enregistre le signal. Mais de façon générale, vous avez tout à fait raison, Caroline, on ne peut pas mener ce genre de recherche sans essayer, d'une part, d'avoir la certitude que la personne est bien consciente qu'elle va parler, et donc qu'on va entendre ce qu'elle veut dire, que ce ne soit pas juste une pensée pour elle, comme une bulle dans une bande dessinée. Et deuxièmement, que le système est fiable, parce que si on s'adresse après à des personnes qui sont coupées du monde parce qu'elles n'arrivent plus à s'exprimer, il faut vraiment s'assurer que... Évidemment, l'exemple extrême, c'est si on pose la question de l'arrêt des soins, si on ne peut pas se permettre qu'il y ait le moindre doute sur la véracité de la réponse qu'on va enregistrer.
Ah oui, c'est abyssal là. Puis après, moi, je pensais aussi à d'autres questions, puisqu'effectivement, le laboratoire de Facebook fonctionne avec des chercheurs, d'éminents chercheurs, mais il y a aussi, évidemment, derrière, on l'imagine, beaucoup d'idées plus économiques et commerciales que uniquement, de soins. On s'en doute aussi. En tout cas, pour en savoir plus, parce que c'est très impressionnant, sur ce décodage de la parole jusque dans le cerveau, l'article est à lire dans Sciences et Avenir de ce mois de juin. Merci Mathieu Novak. Nous avons aussi un exemplaire à vous faire gagner. Chers amis auditeurs, on vous l'a dit, il faudra juste être un peu patient pour les recevoir si vous êtes sélectionnés. Et pour ça, évidemment, il faut nous les demander par mail ou sur la page Facebook d'Autour de la question. Donc merci à Mathieu, merci à Cécile, merci aux deux Philippe, merci à Thomas d'avoir participé en direct et à distance à ce tour de table. On se retrouve le mois prochain, en juillet, pour notre dernière infusion de sciences de la saison, autour de vos magazines respectifs, Science et Avenir, Cerveau et Psycho, Ciel et Espace, Science et Vie et La Recherche. Un grand merci à Jérémy Besset de l'autre côté de la vitre, qui est un magnifique jongleur. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous podcaster à volonté sur RFI ou sur vos applications favorites. La semaine prochaine, on se retrouve pour méditer, tiens donc, car c'est très bon pour le cerveau, mais aussi pour observer l'océan vu du ciel et puis partager sans complexe avec de malicieuses et pertinentes vidéastes et youtubeuses qui osent tout et surtout le meilleur pour faire passer leur science sur le net. On vous a concocté un joli programme de rediffusion car nous prenons une petite semaine de vacances pour mieux vous retrouver avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski bien sûr au micro. D'ici là, prenez soin de vous, surtout restez curieux et gardez l'esprit libre et ouvert. Dans quelques instants, ce sera l'heure du journal sur votre radio mondiale.
Exprimez-vous.